à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au conflit actuel qui sévit au Mali.
C'est mon pays est le Mali, son drapeau est vert, jaune, rouge, sa capitale est Bamako, la ville des trois caïmans, j'aime mon pays, mon beau pays.
Depuis 1958, les Touaregs réclament leur indépendance. Début avril, le mouvement national de la libération de l'Azawad contrôle tout le nord du Mali. Des milliers de Maliens fuient le pays. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jacques Fios. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Tu es président de l'organisation d'intérêt général Graines d'École qui œuvre dans la région du nord du Mali près de Tombouctou. Nous aurons en direct du Mali Maïga, une militante et présidente d'association pour femmes à Kabara. Située à 10 km de Tombouctou, une soixantaine de femmes cultivent la terre sur 3 hectares et elle nous dira plus sur la situation exacte du Mali. Puis nous aurons au téléphone Isaac Al-Youssieni, un Touareg qui a fait ses études d'avocat en Guyane et en France et est directeur de la PJJ de Clermont-Ferrand. Tout de suite, partons en musique dans ce beau pays aussi riche que tourmenté. La Sidane, extrait de l'album Talking Tombouctou, du malien, du bluesman malien Ali Farka Touré. Commençons avec Jacques Fios, président de l'ONG Graines d'École. Grâce à de nombreux donateurs, de fondations et de particuliers, cette organisation a pu mettre en place un programme de production de riz et d'implantation d'une école dans un campement Touareg. Jacques, parlons un peu de ce programme.
Oui, ben, le programme a démarré en 2007 sur l'initiative de deux Maliens. Et c'était important, c'était un Sanraï et un Touareg. Donc, que j'ai rencontré lors de mes voyages et qui m'ont proposé donc un projet assez original de pouvoir réimplanter 20 hectares de riz dans la région de Tombouctou, au bord du Niger. Et que la recette, donc les gains que seront faits par cette récolte, pourront financer après une école. Donc le fonctionnement d'une école. Et donc ils nous demandaient juste simplement de leur donner un coup de main pour équiper ces 20 hectares de riz et pour construire une école. Et qu'eux, après, pourraient faire tourner donc, ce projet-là après en autonomie. Donc ça, c'est ce qui m'a intéressé. Et donc en 2007, je suis rentré en France avec ce projet. J'en ai parlé ici sur Sainte-Afrique, où j'ai pu mobiliser une quinzaine de personnes. Et on a créé donc l'association Graines d'École. Donc 2008-2009, ça a été le programme de mise en place du riz, qui fin 2009 avait sa 2008 une petite récolte, 2009 une récolte plus importante. Et à partir de 2010, on a commencé à construire l'école donc dans un campement Touareg à 26 km de Tombouctou dans le désert, qui s'est achevé donc en juillet 2011. Voilà, oui.
D'accord. Donc justement, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment. C'est bon pour ton projet?
Oui, alors il faut quand même dire aussi que au niveau donc parce que j'ai fait vraiment un raccourci du projet là, hein, mais donc à partir de la rentrée 2011, il y avait 28 enfants qui fréquentaient l'école. Avant qu'il y ait l'école en dur, il y avait une quinzaine d'enfants qui faisaient l'école sous un garde natte là-bas. Donc à partir de la rentrée donc 2011, dans cette nouvelle école, il y avait 28 enfants qui fréquentaient, et en décembre, il y avait 45 enfants qui venaient, et avec des promesses encore d'enfants à venir, parce que l'école, en fin de compte, ça permet de regrouper justement les Touaregs qui vivent un petit peu loin des campements ou des campements à côté. S'ils savent qu'il y a une école, s'ils savent qu'il y a une infrastructure qui peut accueillir leurs enfants, ils viennent et ils se regroupent justement autour de cette école, et ça fait un lieu de vie, et pour eux c'est hyper important, quoi, bien sûr. Et donc décembre 2011, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 3 mois, ils étaient 45 à l'école, et aujourd'hui bien sûr l'école ne fonctionne plus, quoi.
D'accord.
Comme beaucoup de choses dans cette région.
Dans cette région. Donc de janvier à avril 2012, le MLA, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, attaque les camps militaires maliens et les villes situées dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. En mars 2012, le président Amadou Toumani Touré est renversé par un coup d'État conduit par de jeunes militaires dénonçant l'incapacité du gouvernement à gérer la crise sévissant au nord du pays. Donc. À ne pas confondre donc 3 mouvements opèrent actuellement au Mali, le principal étant le MLA, qui réclame l'indépendance Touareg et occupe le nord du pays. Ansar Dine, un mouvement islamiste occupant la partie nord-est du Mali et souhaitant instaurer par la lutte armée la charia. Et enfin le groupuscule LACMI, ou l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, essaie de profiter de la situation. Alors Jacques, quelle est donc cette revendication des Touaregs et comment s'explique-t-elle historiquement?
Tout d'abord, il faudrait savoir ce que revendiquent les Touaregs depuis 1958, comme tu l'as dit tout à l'heure. En fin de compte, il revendique le territoire de l'Azawad. Alors géographiquement, le territoire de l'Azawad, c'est toute la partie désert et Sahel du Mali. Le Mali donc est un pays enclavé qui n'a pas de côte, hein, donc qui est enclavé au milieu donc de l'Afrique de l'Ouest, et il se répartit entre deux grosses régions, on va dire. Il y a toute la partie sud qui est plutôt pas équatorial, mais justement tropical, pardon. Voilà, je cherchais. Tropical. Et après, il y a un grand triangle qui est découpé donc, dans le désert. Et c'est ce grand triangle-là, en fin de compte, qui représente le pays où vivaient ancestralement les Touaregs. Et c'est ce qu'ils appellent donc l'Azawad. Il faut dire que ces frontières ont été découpées justement par le colonisateur. Mmh. C'est-à-dire quand en 1960, quand il a donné l'indépendance à toute la région là, de l'AOF, l'Afrique occidentale française, autant la partie sud est découpée en fonction de cours d'eau et puis de représentations ethniques, autant la partie du Sahara, ils ont pris une règle, et puis boum, 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 ils ont tracé trois traits, et ils disent, voilà, là, c'est maintenant, c'est le Mali, là, c'est l'Algérie, là, c'est le Niger, et voilà. D'où le malaise, en fin de compte. Parce que les Touaregs, en fin de compte, ont été rattachés, malgré eux, sans leur consentement, à un territoire qu'ils ont nommé le Mali, qui s'appelait le Soudan avant, et qu'ils ont nommé le Mali sans leur consentement et sans leur demander leur avis. Et voilà, du jour au lendemain, Touareg est devenu malien. Il y en a qui sont devenus maliens, il y en a qui sont devenus nigériens, il y en a qui sont devenus algériens, et alors que non, ils sont Touareg, quoi. Ça, on a un petit peu... Bon, c'est vrai que la colonisation a... un rôle important dans malheureusement, ce qui se passe en ce moment. Bon, il faut, alors pour comprendre un peu, j'avais envie aussi de rappeler un petit peu la déclaration d'indépendance des Touaregs qu'ils ont proclamée là, récemment, hein, le 1er avril, un peu, ou le 4 avril, je ne sais plus, mm-hmm. Où le texte officiel, il est du 1er ou du 4 avril. Donc les... Trois grandes idées de ce texte sont la reconnaissance des frontières en vigueur avec les États limitrophes et leur inviolabilité. C'est-à-dire que, en fin de compte, ils ne veulent, eux, ils se revendiquent de leur territoire que sur le territoire malien.
Mm-hmm. Pas Niger, enfin pas autour, juste.
Voilà, ils ne remettent pas en question du tout les frontières du Burkina, du Niger, de l'Algérie et de la Mauritanie. Mm. C'est simplement la partie malienne qu'ils revendiquent comme leur territoire. Et essentiellement les régions donc de Tombouctou, de Gao et de Kidal. Mmh. Voilà. Le deuxième point important, c'est l'adhésion totale à la Charte des Nations Unies. Donc, c'est-à-dire qu'ils souhaiteraient être reconnus justement par la communauté internationale et qui respecteraient donc la Charte des Nations Unies. Et on va voir pourquoi tout à l'heure aussi. Et le troisième point, qui est pour moi le plus important, c'est l'engagement ferme du MNLA. Donc MNLA, c'est le Mouvement National de Libération de l'Azawad. À créer des conditions de paix durables, à initier des fondements institutionnels de l'État basés sur une constitution démocratique de l'Azawad, indépendant et laïque. Ça, ce sont les trois points qui sont dans leur constitution. Il faut savoir que pour... justement déclarer cette indépendance, ils se sont appuyés sur du passé, des faits qui sont passés, et entre autres donc la Charte des Nations Unies, comme je disais tout à l'heure, qui régit donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, article 1 et 55 de la Charte, donc déjà ça me semble important aussi. Ensuite, la loi 57-27 du 10 janvier 1957, portant sur la création de l'OCRS, Organisation commune des régions sahéliennes. Alors ça, c'est intéressant peut-être de faire un petit...
Ouais, qu'est-ce que c'est ça justement, voilà, cette loi ?
Une petite aparté par rapport à ça. Bah, c'est une loi qui a été votée donc en 1957 par le gouvernement français, qui dit... Alors, attendez, je cherche mon papier... qui dit, voilà, là je le retrouve, c'est bon. Donc, c'est en fin de compte, c'est la création d'une organisation commune des régions sahéliennes, dont l'objet, donc, c'est la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahariennes de la République française, on est en 1957, il ne faut pas oublier, et la gestion de laquelle participent l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, donc le Mali actuel, le Niger et le Tchad. Et dans les différentes... Alors, ce n'est pas les pays entiers, ce sont simplement des régions dans ces pays-là. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et entre autres, dans cette région, au niveau du Soudan, donc du Mali actuel, il y avait la région de Gundam, Tombouctou et Gao. C'est celle qui nous préoccupe en ce moment. Donc, l'OCRS a pour mission, sur un plan économique et social, premier point, de promouvoir toute mesure propre à améliorer le niveau de vie des populations et à assurer leur promotion sociale dans le cadre d'une évolution qui devrait tenir compte de leur tradition. Superbe. Ça, c'est une belle idée.
Jusque-là, tout va bien.
De mettre en œuvre des programmes généraux de mise en valeur principalement dans les domaines énergiques, miniers, hydrauliques, industriels et agricoles.
C'est là que ça se gâte ou...
C'est là qu'on voit un petit peu plus l'intérêt de la France à avoir voté cette loi. De mettre en œuvre donc un plan d'infrastructure, notamment transport et communication, forcément, parce que si on extrait quelque chose là-bas, il va bien falloir l'acheminer quelque part. De susciter l'installation d'industries extractives et de transformation et de créer, lorsque les conditions le permettent, des ensembles industriels. Là, ça devient beaucoup de plus en plus clair. Voilà. Et il pourrait être institué donc un régime fiscal exceptionnel, de longue durée, au bénéfice des entreprises dont la création, l'équipement ou l'extension présenteront une importance particulière. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Tout un peu plus clair, oui.
Voilà. Et cette OCRS donc, est gérée par une haute commission son rôle est de coordonner les programmes d'action commune et intervention de l'organisation saharienne et d'en contrôler l'application. Et cette commission est composée donc de 16 représentants, 8 membres des populations des zones de l'Algérie, 2 de la Mauritanie, 2 du Niger, 2 du Soudan, donc du Mali actuel, 2 du Tchad, et 16 membres de des assemblées françaises, donc 8 députés, 4 sénateurs, etc. Donc il y a quand même du monde qui est prêt à gérer ça. En fin de compte, cette loi, elle a été faite tout simplement parce que les Français se sont rendus compte que dans les pays qui étaient sous leur colonisation avant 1960, il y avait des régions qui étaient très riches en minerais, en matières premières. Et donc, ils ont voulu se garder ces régions-là pour pouvoir les exploiter un peu comme ils voulaient, au détriment
des
peuples qui y vivent. Avec l'hypocrisie du premier point qui dit que ce sera pour vraiment une bonne évolution. Voilà. Mais... Les Touaregs donc s'appuient sur cette loi par rapport à ce point-là quoi, justement ils revendiquent quoi. Cette loi n'a pas pu être mise en place parce qu'en 1960 tous les pays de la bande sahélique donc ont refusé cette loi et donc elle a avorté.
Par contre, ça n'a pas empêché les firmes de s'installer et de puiser par la
Alors,
suite.
Disons qu'ils ont trouvé un autre moyen. Ils ont trouvé un autre moyen, oui, c'est sûr. La France-Afrique a très bien fonctionné et fonctionne très bien encore. Donc, je disais, l'indépendance s'appuie donc sur cette loi donc, du
1957.
Voilà. Ensuite, elle s'appuie sur une demande faite le 30 mai 1958 au président français, général de Gaulle à l'époque, rejetant l'adhésion de l'Azawad à la future entité indépendante. Il faut savoir qu'on est en 1958, l'indépendance du Mali, c'est 1960. Donc il y avait déjà un projet, et déjà en 1958, il s'était prononcé comme quoi il ne voulait pas être rattaché au Mali, quoi, au futur pays qui s'appellerait le Mali. Quoi. En 1960, l'indépendance a été proclamée, et ils ont été rattachés sans leur consentement. Donc, déjà, là, il y avait aussi un souci. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte forcément d'opinion d'un peuple, quand même, Touareg, c'est pas quand même n'importe quel peuple. Bon. Ensuite, du coup, il y a eu des réactions par rapport à tout ça, un soulèvement en 1963, un soulèvement en 1990, un soulèvement en 2006, en 2010 et aujourd'hui en 2012.
En 2012, ouais.
Voilà. Et dernier point aussi, donc l'accumulation de plus de 50 ans de malgouvernance, de corruption et de collusion militaro-politico-financière, mettant en danger l'existence du peuple de l'Azawad et en péril la stabilité de la sous-région et la paix internationale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, moi je ne suis pas suffisamment calé pour pouvoir argumenter vraiment sur ce point-là. Mais bon, il s'avérerait que de toute façon il y a d'énormes trafics d'armes, d'énormes trafics de drogue, plus du tout petit trafic de cigarettes, gasoil et tout ça qui transite dans cette région-là. Et donc, il semblerait que le gouvernement malien ferme les yeux pour que... Bon, pour quelle raison, quel avantage, je ne sais pas. Mais n'empêche que moi, ça fait depuis donc 2004 que je vais dans cette région-là, que je connais bien. J'ai rencontré souvent les Touaregs. Et ils m'ont toujours dit que vraiment, c'était pas bon pour eux. Ils savaient ce qui se passait, parce que forcément, ils savent très bien ce qui se passe dans le désert. Hein. Ils sont bien placés pour le savoir. Alors, je dis pas que certains Touaregs ont facilité ce genre de choses, ont même participé à tous ces trafics et tout ça. Mais je veux dire, la majorité de la population que je rencontrais, était contre ça, je veux dire. Moi, j'ai assisté à des réunions de chefs de tribu et de conseils municipaux où ils se posaient la question, justement, comment désarmer certaines parties du désert. Enfin, il y avait tout un travail qui se faisait là-dessus, quoi. Donc, ils étaient vraiment sensibles au fait qu'il se passait des choses dans les déserts qu'ils ne contrôlaient pas et qui n'étaient pas bons pour eux. Mmh. Et ce qui a entraîné les rapts de tous les Français et tous les étrangers qu'il y a pu y avoir et dont ils ne maîtrisent pas, même si c'est certains groupuscules touarés qui ont profité de ça pour revendre après la CNI. Enfin, il fallait arriver à avoir de l'argent quelque part, quoi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le pourquoi de ce qui se passe maintenant.
De diverses rébellions. Hein.
Voilà, des diverses rébellions. Après l'historique aussi, donc on peut le voir aussi donc sur un plan de la colonisation, bien sûr, parce qu'avant la colonisation, les ententes tacites liées sédentaires et nomades dans le respect de leur intérêt mutuel. Donc ils faisaient souvent des échanges commerciaux. C'est-à-dire que les Touaregs, en fin de compte, c'est un peuple de nomades, mais c'est un peuple donc d'éleveurs et de commerçants. C'est-à-dire que c'est eux qui assuraient, en fin de compte, toutes les marchandises qui venaient du Moyen-Orient et de l'Orient. Toutes les épices, il devait y avoir aussi les tissus, tout ça, qui venait du Moyen-Orient, et en contrepartie, par contre, il prenait... parce que toute cette partie-là du Mali et du Sahel est très, 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 très riche en or. Et donc, ils échangeaient donc ces épices et ces tissus contre de l'or qu'ils ramenaient au Moyen-Orient. Donc, eux, ils assuraient le lien, c'était les caravanes, hein, qui assuraient le lien donc, pour la traversée du désert. Bon, bien sûr, dans les fins du 19e siècle et tout le 20e siècle, des transports maritimes se sont développés, l'industrialisation, puis après, maintenant, c'est devenu des avions et tout ça. C'est vrai que c'est plus vraiment leur gagne-pain, c'est plus vraiment le commerce. Hein. Donc, ils n'ont plus que l'élevage. Donc, ils avaient quand même des relations avec les peuples noirs, qui étaient justement soudanaises, qui sur lesquels ils commerçaient, quoi. Bon, il faut pas non plus se leurrer. Je veux dire, les Touaregs, c'est un peuple de guerriers. Ils vendaient des esclaves noirs aussi, donc ils faisaient des radias. Hein, les radias, ça vient de chez eux. Et les radias, c'est-à-dire qu'une descente dans un village, ils raflent tous les hommes et puis ils repartent, quoi. Ils raflent, bon, voilà. Donc ça, c'était pas toujours très cool non plus, quoi. Hein, c'était pas simplement...
C'était pas le paradis.
Ouais, voilà. Mais bon, il y avait quand même... Moi, je sais que quand on a monté le projet donc à Tombouctou... On a monté ce projet, le riz, on l'a mis en... Je vais y arriver, excusez-moi. Le riz, donc, on a installé donc, ces 20 hectares de riz dans un village qui s'appelle Toya, qui est essentiellement peuplé de Sonrai. Les Sonrai, ce sont des Noirs africains. C'est un peuple de cultivateurs. Et notre projet, donc, c'était que ces Sonrai fassent du riz pour faire une école chez les Touaregs. Notre première question, c'était comment ça va se passer ? Je veux dire, est-ce que vous acceptez, vous, Sonrai, de faire du riz ? Sachant qu'eux, ils avaient quand même récupéré une partie du riz pour eux, hein, donc ils ne faisaient pas ça pour rien, mais que le projet, après, allait financer une école dans un campement Touareg. Et ils nous ont dit, mais il n'y a pas de problème. Nous, ça fait longtemps qu'on a des relations avec le peuple Touareg. Les Touaregs, ancestralement, viennent chercher nos vaches et les amènent dans des pâtures dans le Sahara et nous leur amènent 2-3 mois après. Enfin, il y avait un échange, des ententes. C'est-à-dire que c'est un peuple qui savait vivre côte à côte, quoi. Et d'ailleurs, dans la déclaration d'indépendance, elle a été faite pas simplement par les Touaregs, mais aussi en accord avec les Sonrai, avec les Peuls aussi, qui sont des nomades aussi éleveurs, qui sont un peuple de Noirs aussi, avec les Maures et avec les Arabes. C'est-à-dire que cette concertation par rapport à l'institution donc d'un nouvel État qui souhaiterait la Zawad, elle a été faite en concertation avec tous les peuples qui vivent sur le lieu, quoi. Voilà, et donc ça marchait très bien entre eux. Après, il y a la France qui est arrivée, coucou, tralala, et... qui, bon, elle, bien sûr, elle a mis tout le monde au pas, par la force. Les Touaregs, ça n'a pas été facile, mais ils ont... Forcément, les Touaregs, à l'époque, quand ils sont arrivés, donc c'était en 1800, je ne sais plus combien, 1800 et quelques, Les Français arrivaient avec des canons et des fusils, et eux, ils avaient des lances et des flèches et des sabres.
Pas le poids, quoi.
Voilà. Mmh. Donc, ils n'ont pas fait le poids longtemps. Mais il y a toujours eu quand même des rébellions, parce que même avec des flèches et des armes, je veux dire, quand les Touaregs rentrent dans le Sahara, ben les Français, ils peuvent courir derrière, quoi.
Et oui, puis ils connaissent mieux le désert, il y avait des avantages, sûrement.
C'est clair, et puis le désert, c'est pas facile. C'est pas un pays facile où il y a des cartes, où il y a des GPS, à cette époque-là, ça n'existe pas. Donc voilà, les Français donc, ont quelque part mis tout le monde au pas. Et puis lors de l'indépendance, moi je pense que c'est dommage, quoi. C'est qu'on n'est pas tenu compte justement de toutes ces ethnies. Et en plus, la grosse erreur qui a été faite, c'est qu'ils ont remis le pouvoir au Mali au Bambara, c'est-à-dire aux Noirs, quoi, au peuple soudanais. Sachant que
oubliant tous les peuples du coup qui étaient autour, tu as cité tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, en oubliant un peu les peuples qui étaient autour, et du coup, ben, les Bambara, c'est un peu la même histoire qu'il y a eu au Burundi avec les Hutus et les Tutsis, où je ne sais plus lesquels étaient supérieurs par rapport à l'autre, enfin, supérieurs dans le sens où bon, ils avaient un pouvoir sur l'un et sur l'autre, et les colonisateurs, à l'époque c'était les Allemands et puis après les Belges, ont remis le pouvoir aux plus faibles. Et du coup, ben voilà, il y a eu une vengeance. Et là, c'est un petit peu... Alors, ça n'a pas été un massacre, mais ça a été... le peuple Touareg a été complètement délaissé par Bamako, qui a développé la partie sud, donc comme on disait tout à l'heure. Et la partie nord, c'est pareil. Moi, quand j'y vais, j'ai toujours entendu dire, mais Tombouctou, Gao et Kidal n'ont jamais été développés. Ça a commencé à être développé là, il y a un an ou deux, mais pas plus, quoi. Alors que ça fait des années que le gouvernement de Bamako touche des aides humanitaires
pour ces régions-là,
et qu'ils n'y arrivent pas. Donc ben voilà, quand on arrive à un moment où bon, ben les gens ils disent ras-le-bol, et puis non, on reprend notre territoire, et puis on va s'occuper de nous. Et voilà, voilà un peu l'histoire, je pense, de ce qui arrive un peu au Mali.
D'accord. Et le peuple dans tout ça, justement ? Parce qu'il y a pas, il y a des... Bon...
Oui,
donc il y a eu des rébellions, tu veux peut-être en parler ?
Oui,
il y a plusieurs
voilà,
rébellions,
ouais, j'aimerais parler aussi de la rébellion de 1990, qui a été quand même la plus forte, la plus importante, qui a duré 8 ans. Et qui est due à quoi ? Ben, en fin de compte, elle est due déjà à deux sécheresses importantes en 1990. 1973 et 1984, où 80% des troupeaux, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des éleveurs, donc dans cette région-là, 80% des troupeaux ont péri, et donc ont mis vraiment les Touaregs sur la paille, on peut dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout perdu, toute leur fortune, quoi. C'est-à-dire qu'avant, chaque tribu et chaque famille Touareg avait un certain nombre de chameaux. Là, j'ai rencontré plein de tribus qui me disaient, oui, il y a 50 ans, on avait des chameaux, mais là, on n'avait plus, il y avait un chameau, deux chameaux. Et donc, cette sécheresse a été très dure pour eux. Le sous-développement de la région, dont on parlait tout à l'heure, aussi, a été très mal vécu par cette région-là. Et... aussi le retour de jeunes Touaregs formés en Libye pour la guerre du Tchad. Parce que la Libye, en fin de compte, a perdu une guerre contre le Tchad en 1987. Et ce sont des jeunes qui ont été formés en Libye, qui ont été enrôlés dans l'armée comme mercenaires. Et puis, à la fin de la guerre, ils sont rentrés...
Avec les armes ?
Alors, je ne sais pas si ce coup-là, ils sont rentrés avec les armes, mais ils sont rentrés, je veux dire, avec un esprit combatif et avec une formation de militaires. Et ça a donné le début de la rébellion en 1990. On est exactement dans la même situation
aujourd'hui. Avec les armes qui viennent de Libye.
Avec les armes et les mercenaires qui viennent de Libye après la chute de Kadhafi. Et qui donne donc un élan à cette région pour pouvoir reprendre possession de son territoire.
Et les armes, ce coup-ci ?
Alors, ce coup-ci, ils sont arrivés avec des armes. Et puis, pas n'importe quelles armes. Hein. C'est des armes très sophistiquées. Et c'est des armes made in France, en plus. C'est bien, donc on peut être fier.
Ah oui ?
On peut être fier. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le CDE, là, maintenant, donc la force qui est en train de se mettre en place pour reprendre le Nord et qui va soutenir donc, le gouvernement de Bamako, je pense que la France va vendre des armes aussi. Donc, notre économie marche très bien, il n'y a pas de problème, nous, on va bien s'en sortir. Voilà. Oui, donc justement, coup d'État à Bamako, Alors là aussi, c'était... Pardon. Coup d'État à Bamako, bon, vite fait, c'est en fin de compte des militaires, des jeunes lieutenants et capitaines militaires qui en ont ras-le-bol de la politique que fait le ATT par rapport au Normali et qui se rendent bien compte qu'il n'y a aucun moyen pour endiguer cette rébellion et qui se révoltent par rapport à ça et donc font ce coup de force qui profite forcément au mouvement Touareg. En 3 jours, ils prennent 3 villes et les militaires maliens fuient carrément la région parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne se sentent pas soutenus. Donc ils préfèrent partir, ils sauvent leur peau et donc c'est facile après pour le MNLA à reprendre toute la région. Et voilà. Et c'est clair que qui c'est qui pâtit de tout ça, c'est le peuple, c'est la population, quoi. La population de Kidal, la population de Tombouctou, de Gao, toute la population du Gourma, qu'on appelle, c'est-à-dire toute cette région qui est en dessous du fleuve Niger, qui ont peur, qui fuient. 120 000 réfugiés à ce jour entre la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Et en plus, ils fuient pourquoi ? Parce que l'ACMI. Et en Sardine, qui est un groupuscule intégriste, Touareg, qui proclame la charia à Gao, à Tombouctou, alors que ça, c'est inimaginable dans ce coin-là. Je veux dire, l'islam là-bas est un islam très modéré. Je veux dire, les Touaregs est un régime matriarcal, c'est-à-dire les femmes. C'est les hommes qui sont voilés là-bas, c'est pas les femmes. Et c'est impossible qu'une charia ne puisse être imposée. Enfin, ça ne peut pas le faire. Ou alors vraiment, ils vont être en soumission, mais c'est inimaginable. Un Touareg en soumission, j'ai jamais vu ça. Donc là, on va peut-être...
On va faire une pause musicale. Tout à l'heure, restez à l'écoute, on va avoir Maïga qui est au Mali, donc en direct, par téléphone. Tout de suite, Bridgewater.
Go, Lube, yellow. In my heart and my soul, no one Someone like you to thrill me with your charms. And now you're here beside me, my heart and my soul. No. They dance inside our love.
No, mon Didi.
Malienne avec Bridgewater. Nous n'avons pas réussi à joindre Maïga au Mali, donc nous partons tout de suite sur l'autre invité qui est Issac. Donc Issac Ag Alousseni au téléphone. Issac est Touareg, il a fait ses études d'avocat en Guyane et en France et il est actuellement directeur de la PJJ de Clermont-Ferrand. Issac, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la position des Touareg?
Oui, tout à fait. Mais juste avant... Je ne suis pas directeur de la PJJ, mais directeur d'un service de la PJJ.
Voilà. D'accord.
Oui. Donc la question était de...
Est-ce que tu peux nous préciser la position des Touaregs en ce moment?
Bien, les Touaregs ont déclaré, ont proclamé l'indépendance de la ZAWAD le 6 avril. Et donc pour l'instant, la communauté internationale peine à reconnaître cette indépendance. Et nous sommes donc dans l'attente de... Maintenant, voilà, il y a un travail sur les plans politiques à faire, sur les plans militaires. Donc la libération de la ZAWAD a été concrétisée. Aujourd'hui, l'armée régulière malienne n'est plus présente dans ce territoire. Il nous reste à finir donc le travail sur les plans politiques qui viserait la reconnaissance par l'opinion internationale de l'indépendance de la ZAWAD.
Issac, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, tu dis sur le plan international. Bon, par rapport à Alain Juppé. Alain Juppé, bon, bien sûr, il a reconnu non avenu votre déclaration d'indépendance, mais je pense qu'il dit qu'il est prêt à négocier quelque chose avec vous. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus ou...
Oui, tout à fait. Donc, alors, il sous-entendrait qu'aujourd'hui, il y a une autonomie donc plus facile à obtenir que l'indépendance. Donc, une autonomie, une décentralisation renforcée en ce moment.
D'accord.
Mais tout en restant dans la République malienne.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y aurait donc un territoire autonome qui serait où vous aurez une place beaucoup plus importante que vous aviez avant.
Voilà, tout à fait.
Et ça c'est recevable par vous?
Eh bien, ça avait été demandé lors des premières rébellions. Déjà, dans les années 90, les PAC nationales visaient cette autonomie. Mm-hmm. Donc, les accords ont été signés, mais jamais appliqués.
Par l'Algérie. Ah, c'est par le biais de l'Algérie, non ? Ou bien je me trompe ?
90, par le biais de la France déjà, de l'Algérie.
D'accord.
Donc les pactes nationaux visaient, mettaient en place cette autonomie de l'Azawad. Et aujourd'hui, donc, en 2012, ce pacte n'a jamais été signé. Et celui de 2006, donc, l'accord d'Alger, pareil, hein, il n'a pas été appliqué. Et aujourd'hui, au lieu de demander, nous ne voulons plus de l'autonomie, nous voulons justement l'indépendance, donc l'autodétermination de l'Azawad.
D'accord. Et vous avez des pourparlers donc avec le gouvernement français ou pour l'instant vous êtes un petit peu seul encore sur votre pays?
Oui, pour l'instant on est seul.
S'il n'y a personne qui vous a contacté, qui se sont mis en relation avec vous pour savoir
Non, officiellement non.
Officiellement non.
Officiellement non, personne.
Donc là-bas, il y a plein de peuples qui vivent au Mali. Donc on disait, il y a les Nord-Africains, il y a différents peuples. Qu'est-ce qu'ils sont de votre côté ? Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui fuient le Mali ? Comment ça se passe concrètement là-bas ?
Alors, la révolution actuelle donc, dans l'Azawad ne concerne pas les Touaregs. Elle concerne tous les habitants, toutes les populations de l'Azawad, donc de ce qui était les Nord-Mali.
Tu veux dire pas que les Touaregs ?
Pas c'est que ça. Les Touaregs. C'est ça. Il y a certes les Touaregs, mais il y a surtout les Arabes. Les Songhaï, le Peul, et toute personne habitant ou ayant des intérêts dans l'Azawad.
Et ça, je veux dire, ça a été. Il y a des représentants de ces peuples-là ?
Oui, tout à fait, il y en a. D'ailleurs, sur le terrain, les soldats, vous verrez, hein, il y a. Oui, ils sont présents, toutes ces communautés sont présentes.
Donc ce n'est pas une révolution uniquement Touareg ?
Non. D'accord. Non. Alors c'est ce que la presse malienne voulait faire passer comme message, comme quoi ce sont juste la minorité Touareg qui voulait s'accaparer trois tiers donc, du territoire malien.
Du territoire malien, ouais. Et la question qui fâche, l'ACMI là-dedans, ils sont sur place aussi ? Ils ont revendiqué aussi une certaine façon de voir les choses en proclamant la charia à Gao et à Tombouctou ? Quelle est votre position ?
ACMI, peut-être pas, mais Ansaruddin, donc qui est un mouvement islamiste, qui venait de voir les jours dans le nord du Mali, lui voulait rester. Enfin, ce qu'il vise, en effet, c'est l'application de la charia donc au Mali. Mmh. Et, ils sont contre l'indépendance de l'Azawad, mais ils sont plutôt pour un droit islamique
et une république islamique malienne.
Voilà, voilà. Et bien sûr, nous ne partageons pas cette idéologie-là.
Oui.
Nous avons une révolution laïque, donc avec une démocratie, état de droit. Et nous ne partageons absolument rien avec ces mouvances.
Oui, mais ici en France, l'amalgame est assez rapide à faire. Et comment est-ce que vous allez gérer ça ? Parce qu'ils sont quand même sur place. À Tombouctou, ils ont quand même proclamé la charia. Il y a des vidéos sur Internet qui sont très explicites là-dessus. Comment vous, le gouvernement, le futur gouvernement de l'Azawad, va pouvoir gérer ça ?
Alors, nous avons fait appel à la communauté internationale, justement, pour nous aider à... Et nous sortons d'une guerre on n'avait pas de moyens, on n'était pas appuyé financièrement par quiconque. Donc aujourd'hui, on est un peu démunis et nous avons fait donc un appel à la communauté internationale pour nous aider à combattre donc ces mouvances.
D'accord.
Là, nous sommes en train de nous réorganiser. Voilà, je pense que il est inévitable aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, en tout cas, cohabiter avec eux pour les biens de l'Azawad.
Ouais, je comprends que de toute façon, c'est pour vous, c'est un petit peu, ça se bouscule beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à organiser, et que les choses vont se faire les unes après les autres, quoi. Et j'ai entendu ce matin donc sur RFI justement par rapport à Bamako. Beaucoup de jeunes à Bamako se mobilisent parce qu'ils sont prêts à se battre. Ils trouvent que la région du Nord Mali est devenue très insécurisante. Et donc qu'il y a une insécurité qui ne leur plaît pas du tout et qui sont prêts à se battre. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui, comment aussi vous allez être donc aussi menacés par le sud Mali et la CDAO derrière qui prépare aussi une troupe de 2000 à 3000 hommes.
Oui. C'est qu'il y a une armée nationale avec enfin, tous les dispositifs militaires dont elle dispose n'a pas réussi à faire. Je ne pense pas que ce soit des civils, de jeunes notamment, qui vont pouvoir combattre la rébellion.
Même avec l'appui de la CDAO, quand même, qui mobilise une troupe.
Qu'est-ce que c'est, la CDAO, Jacques ?
Oui, la CDAO, c'est les termes, je ne sais pas si tu les connais, toi, Isaac, mais enfin, c'est un peu la communauté de l'Afrique de l'Ouest.
La communauté, voilà, des États de l'Afrique de l'Ouest.
Des États de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Un peu l'équivalent de notre Europe, peut-être. Mais donc, oui, avec l'appui donc, de la CDAO et de ses forces de 3000 hommes. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Est-ce que vous êtes en négociation, justement, avec la CDAO ? Ou c'est encore trop frais, encore, tout ça ?
C'est encore très frais. Mmh. Maintenant, une intervention militaire de la CDAO dans l'Azawad, ou au nord du Mali, n'est pas... Enfin, c'est complètement écarté. D'abord, c'est un problème interne. Mmh. Interne entre Maliens et... ex-maliens, azawadiens, au nouveau gouvernement malien et avec les MNLA de trouver la solution. Et sur le plan militaire, je ne pense pas que la CDAO puisse gagner sur dans le Sahara un terrain qu'elle ne connaît pas.
Ouais, c'est vrai que vous, votre avantage, c'est justement votre terrain, votre terre nourricière qui est le désert et que vous connaissez très bien sûr.
Puis voilà, il ne faut pas oublier aussi que les Touaregs, les Azawadiens de manière générale, représentent vraiment un bouclier contre l'extrémisme, contre Al-Qaïda, dans la sous-région. Donc il est de l'intérêt de tous les États de la sous-région et du monde entier de collaborer avec les Touaregs, de renforcer les liens et de faire en sorte que les touristes puissent revenir de nouveau, que la vie économique et sociale puisse refonctionner.
Mmh. Oui.
Alors justement, comment tu vois l'avenir de l'Azawad et des populations qui y habitent ? Comment tu penses que ça va se passer ? Enfin, comment tu vois l'avenir ?
Alors, une bonne partie des populations de l'Azawad sont réfugiées aujourd'hui dans les pays limitrophes. Bien sûr, une fois que la stabilité soit de retour dans l'Azawad, elles vont toutes revenir et reprendre leur vie paisiblement, et leur vie économique notamment.
Donc, est-ce que si l'Azawad obtient l'indépendance, en fait, les peuples qui y habitent, est-ce qu'il y aura une volonté aussi de se démarquer du gouvernement français ou des multinationales qui saccagent quand même le territoire ? Ou pas ?
Des multinationales dans l'Azawad, pour l'instant, il n'y en a pas.
Mais il y a Areva qui est proche de ça, au Niger, et ils n'ont pas du tout accès aux ressources du Sahel ou de l'Azawad dans cette région-là.
Pour l'instant, non.
D'accord.
Pour l'instant, non. Mais c'est quelque chose à construire, bien entendu.
Mm-hmm.
D'accord.
Ok, bah écoute...
On te remercie, ouais. Isaac. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas, qu'on n'a pas abordé ?
Oui. Donc juste pour faire passer un petit message à la France, au peuple français, qui a toujours, et j'espère, est resté ami avec les Touaregs généralement, et surtout avec les Azawadiens en particulier. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de l'aide de ces amis, où qu'ils soient. Donc de faire passer le message et de reconnaître... l'autodétermination du peuple azawadien. C'est son droit le plus élémentaire.
Mm-hmm.
Il faut l'aider, il faut le renforcer, il faut le reconnaître.
Ok, merci Isaac. Message est bien passé. Merci à toi.
Merci à toi Jacques. Ouais. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Ok, au revoir.
Bon, mais partons en musique avec Le Chauffeur est dans le Pré et Imi Diwen.
We'll be right back.
Le chauffeur est dans le pré, un groupe héroleté au sang chaud, avec Imidi Wen, des musiciens et chanteurs Touareg. Ça, c'est une histoire d'amitié forte qui est née entre ces deux groupes, et cela a donné lieu à divers échanges entre les pays de chacun, ainsi qu'une grosse tournée en France pendant quelques années. Moi, j'étais allée les voir, par exemple, dans l'Hérault, c'était fantastique. Puis, ça a donné lieu à un très bel album dont vous venez d'entendre Nina et Nina, une chanson traditionnelle Touareg. Finalement, Jacques, est-ce que les Touaregs, c'est pas un peu le peuple premier de l'Afrique, comme les Amérindiens le sont?
Oui, enfin, le peuple premier de l'Afrique, c'est un des peuples, je pense, qui sont restés très intègres et très premiers. Moi, je les compare, c'est ça, aux Amérindiens, je les compare aux aborigènes d'Australie, aux Papous de Nouvelle-Guinée. Ce sont vraiment des gens qui ont gardé, qui sont arrivés jusqu'au 21e siècle avec les mêmes traditions, la même culture. Sinon que eux, ils se sont quand même adaptés à... Je veux dire, ils ont évolué avec... J'ai envie de dire, donc, ils n'ont pas eu le whisky comme on a fait pour les Indiens ou les Aborigènes. Les Papous, bon, je ne connais pas très bien, mais enfin, je veux dire, c'est un peuple qui est resté justement très primitif et très proche de la nature et qui n'a pas évolué avec le monde. Alors que les Touaregs, eux, par contre, ils ont quand même continué à évoluer. Ils n'ont pas eu de réserve, ou alors ils ont failli avoir, parce que je veux dire, on n'est pas loin. Si, je veux dire, si c'était pas rebellé régulièrement, ce sont des gens qui seraient en réserve maintenant. Enfin, je le vois très bien comme ça. Il y aurait une réserve au Sahara où on mettait les Touaregs, et après tout le monde faisait ce qu'il voulait autour. Quoi. C'est ce qui leur pendait au nez. Et donc, quelque part, c'est ce que j'admire un petit peu dans leur combat et dans leur esprit guerrier. C'est qu'ils résistent à tout ça tout en s'adaptant.
Sachant que, comme l'a dit Isaac tout à l'heure, il y a aussi d'autres peuples. Hein. Ce n'est pas seulement les Touaregs en même temps.
Oui, bien sûr.
Les Peuls.
Après, c'est ça. Oui, c'est la cohabitation que je parlais tout à l'heure, justement. Oui, ils ont toujours été en relation avec d'autres peuples qui, eux, étaient en relation. Donc, c'est tout un échange et une chaîne qui se faisait. C'est comme ça, je pense qu'ils ont pu garder vraiment le contact avec la civilisation qui progresse, quoi. Et ils sont restés dans le coup.
Et nous, Jacques, en restant ici, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour les aider?
Alors, ce qu'on peut faire, nous, avec Graines d'École, donc on a déjà envoyé de l'argent pour... justement, il y a beaucoup de familles qui se déplacent. Tombouctou s'est vidé quand même de 90% de sa population hein, en l'espace de moins d'un mois. On le disait tout à l'heure, 126 000 réfugiés sur la totalité du Nord-Mali. Et donc beaucoup de gens se déplacent, beaucoup n'ont pas les moyens. Les prix ont été multipliés par 4 sur la région, autant au niveau alimentaire qu'au niveau transport, qu'au niveau... Tout le monde, et d'un côté, peut-être profite de la situation, mais de l'autre côté, essaye aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir sauver sa propre famille. Donc on a déjà envoyé de l'argent, nous, sur place, avec les gens, bien sûr, avec qui on a eu d'énormes relations là-bas. Et on a encore besoin d'argent, donc j'en profite aujourd'hui de faire un appel à don. Si des gens veulent donner 5 euros, 10 euros, 50 euros, comme ils peuvent, comme ils veulent, qu'ils adressent leur don à Graines d'École, chez Jacques Fillos, à Vandelove, 12 400 Saint-Afrique. Et nous, on saura où transmettre ça. Justement, Maïga, qu'on n'a pas eu tout à l'heure, aura certainement besoin aussi d'un coup de pouce. Je pense que beaucoup là-bas ont besoin d'un coup de pouce. J'avais donc mon ami Tabala qui vit dans le désert, dans un campement, qui est Touareg. La semaine dernière, il me disait, ça fait 3 jours qu'ils n'ont plus rien à manger, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont manger. Là, hier, on a envoyé 250 euros pour qu'ils puissent organiser une caravane d'ânes, pour qu'avec son campement, ils puissent se déplacer et aller jusqu'à Mauritanie, parce qu'ils veulent quitter la région. Parce que la charia, parce que les armes qui pétaradent de partout, c'est pas bon.
Et c'est donc, des familles entières qui traversent le désert, apparemment.
Oui, bien sûr.
À pied.
C'est même des campements entiers. Je veux dire, c'est plusieurs familles. Hein. C'est des tribus entières qui se déplacent. Et donc, forcément, il y a besoin de moyens. Bon, là, j'ai regardé donc, sur un courrier international, il y a de plus en plus d'ONG qui se bougent maintenant. Il y a le Secours catholique qui est au Burkina Faso. Il y a une mobilisation marocaine, entre autres. Il y a beaucoup d'aide humanitaire qui vient du Maroc, mais ça devient un gros... C'est un gros problème. C'est un gros problème de déplacement de population, avec tout ce qui entraîne, tout ce que l'on sait, que l'on connaît. Bon, ben voilà, maintenant c'est au Mali. Ça a été au Tchad, ça a été dans plein de régions. Là, c'est au Mali. Et ça nous touche, moi, d'autant plus, et les gens de Graines d'École, d'autant plus, qu'on connaît ces gens-là, quoi.
Que vous les côtoyez, ouais. Donc on peut envoyer un chèque à Jacques Fillos ou à l'association Graines d'École avant de l'œuvre.
À l'ordre de Graines d'École, bien
à
sûr.
L'ordre
hein,
de
c'est
graines
évident, d'école. Hein, c'est évident, pas à mon ordre. Moi, je sais. Ça va, j'ai ce qu'il faut.
Et pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous rendre sur le site officiel de la ZAWAD, www.mnlamov.net. Finissons cette émission en musique avec l'Africaine Révolution de Tikenja. L'Africaine Révolution de Tikenja Fakoli. Merci à toi Jacques pour toutes ces informations.
Ben, merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui et puis de pouvoir parler du Mali.